le Festival Cinéma d'Afrique sur Radio Django, à écouter sur radio.django.fm.
Et en point fort, ce soir, Claudia, tu vas nous parler du film Suisseau-Marocain, une urgence ordinaire, avec le réalisateur de ce film.
Oui, on a le réalisateur de ce film, on a le plaisir de recevoir Mohcine Besri, bienvenue.
Merci.
Et nous allons revenir vers vous dans quelques minutes, parce qu'on va d'abord présenter le film en quelques mots. Je vais commencer avec la scène initiale du film qui m'a beaucoup touchée, parce que le film commence avec une scène que je trouve poétique, et ironique et dramatique à la fois. C'est un jeune homme qui est sur le point de se suicider en se jetant dans le pont. Et puis à ce moment, il y a un vieillard qui passe avec son chariot. Le spectateur s'attend, il se demande s'il va le sauver ou pas. Ben non, finalement, il prend sa cigarette. Et puis il prend aussi les habits. Puis le jeune homme se jette du pont en culotte, quoi. Et parallèlement, on découvre les autres protagonistes du film, Driss et Zara, qui ont quitté leur village de pêcheurs pour amener leur frère Ayoub de 6 ans à l'hôpital, aux urgences de l'hôpital public de Casablanca. Et ils retrouvent Houtine, le frère de Driss, avec qui ils sont fâchés depuis des années. Le film se déroule à Casablanca sur une durée de 24 heures dans un huis clos, dans un hôpital public. On y croise différents personnages, des patients, des soignants, riches, pauvres, habitants de campagne, des villes, marocains ou étrangers. De toutes ces trajectoires émane la photographie d'un pays en souffrance, déchiré et en compromis et compromission, en voyant dans l'exil son unique salut. Une calme tension accompagne le spectateur tout au long du film, qui acte de découvrir quel sera le destin des protagonistes du film et jusqu'à où ils seront prêts à aller dans leurs différentes histoires de vie. Et avant de parler du film avec le réalisateur, Mohcine Besri, on vous propose d'écouter un extrait du film en dialecte marocain qu'on vous demanderait de nous traduire après
avec
parce
plaisir.
Que je pense qu'il
y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
هي عارف كي غنمشيو عند حسين على رجلينا على حنا ما يعطيك الفلوس ديالك ماشي خوك
هذاك ما نجدو منه غير مصايف
شحال هادي هو كيضر راسو
شي يامال
شهرين ونص
ان شاء الله ما يكون باس غير خصني ندير ليه سكانير باش نشوف ليه في راسو مزيان
شحال تقريبا
تقريبا ديك 2500 درهم
عندي واحد البلان مع شي سويسريين الله يعمر لهم الدار غنشوفهم نهار الاثنين وغنعطيك واحد الطريف وداك الشيء راه ما فيه لا تخلويد لا والو
مع خويا دابا اش عندي غنحتاجو الفلوس
فين تتزوجتو
نتزوجو شو هذا طش هذا دم
غير غادي تخوى بلاصه غادي نتكلفو بيه صافي
كون كان با وزير كون دخلو هو الاول
ما فهمتش انا اش جات السيده ربيت هادي فيا هادشي كامل
المرا هادي كاع الدراري اللي كيموتوا صحابهم ما حاملهمش هما ناس
دوك السويسريين راه عيطوا لي دخلوا للمغرب صدعوا لي راسي
عندكم صار اللي لقيتونا مسيل الدري راك شتي السبيطار كيفاش عامر
ما تفهمنيش شوف
داك التبسنيس ديالك راني عارف
بقى شي حاجه في ولدي عمري سمح لك عمري
Bande annonce du film Une urgence ordinaire du réalisateur suisse-marocain Mohcine Besri qui est avec nous. Qu'est-ce qu'ils se disent les protagonistes dans cet extrait en résumé ?
En fait, c'est comme ça d'un coup.
Oui, c'est pas évident, mais en même temps, je pense que c'est la première fois que je l'écoute, vraiment, parce que là, on n'a pas l'image, donc j'étais concentré sur le son. En fait, c'est très mauvais comme on a fait ça, parce qu'il y a quasiment tout le film. En fait,
ah, qui clash en film directement.
Parce que je pense réellement, en fait, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument, enfin, ça racontait absolument tout le film. En fait, tout ce qui est dit là-dedans, si je vous traduis ça, c'est comme si vous avez vu le film.
Bon, mais c'est une bonne bande-annonce, mais... alors ça donne envie.
Je sais pas, en fait, mais en tout cas, moi, ça m'a un peu... Ça m'a, voilà, j'ai l'impression que c'était pas aussi bien fait que j'aurais voulu, parce que ça dit tout. En gros... Pour reprendre en fait la scène d'ouverture que vous avez évoquée au tout début du film, En fait, pour moi, c'était presque un... Là aussi, c'était presque une bande-annonce. C'est-à-dire, c'était presque le résumé de la situation, de tout ce, qui est... tout ce qui se raconte dans le film et un peu dans la société actuelle dans laquelle on vit. Marocaine, mais pas que. J'ai bien peur que ça soit un peu plus encore plus large. C'est juste une personne qui est donc au bord du suicide, qui va se jeter. Et on pense qu'il va être sauvé par la personne qui vient. Et en fait, pas du tout. Il lui prend encore ce qu'il a, ce qui est logique de son point de vue, parce que vu qu'il va sauter, bah, il n'a plus besoin de cigarettes et puis encore moins d'habits. Donc c'est tout à fait utile, enfin, c'est presque du recyclage, donc ils lui reprennent tout ça. Et donc ils le laissent mourir enfin, dans un espèce de... Voilà. Et j'ai bien peur qu'on soit un peu dans cette situation. Donc après, durant tout le film, je vais essayer de voir est-ce que réellement on est arrivé à un état où on est dépourvu de toute humanité, et d'entraide et d'empathie envers l'autre. Et on se rend compte que c'est plus compliqué et plus nuancé que ça. Donc à travers ce huis clos qui se passe donc dans l'hôpital de Casablanca, même si on a tourné ailleurs, j'essaie de dessiner un portrait du Maroc, de la société marocaine actuelle, en tout cas depuis mon point de vue.
Et puis,
donc le petit garçon, je vais quand même traduire un peu. Donc en fait on apprend qu'il y a une famille de pauvres, modestes, qui vont arriver à Casa pour soigner leur enfant, qui a mal à la tête. Ils vont très vite découvrir qu'il a besoin d'un scanner, mais ils n'ont pas les moyens, donc ils vont devoir vendre ce qu'ils ont pour payer le scanner en privé. Et tout de suite après, la deuxième mauvaise nouvelle arrive, c'est qu'il doit se faire opérer en urgence. Il n'y a pas de place à l'hôpital et on le pousse à aller dans le privé ou d'attendre. Et si jamais ça traîne trop longtemps, bah, l'enfant va être, il va perdre sa jambe. Et durant tout le film, bah, il y a cette attente-là, mais à travers cette attente, on découvre un peu toutes les couches de la société marocaine, avec ce qu'elle a de bien, de mauvais, de normal, enfin voilà.
Et puis justement, une urgence ordinaire, on le voit beaucoup aujourd'hui, des séries, des films qui se déroulent dans des hôpitaux. Mais votre film est bien loin de toute cette série de films qu'on voit. Il a un rythme long, presque désespéré. En 24 heures, vous racontez les histoires que vous venez d'évoquer, du petit Ayoum, de ses parents qui attendent désespérément toute la nuit qui soit opéré.
Oui, en fait, dans l'écriture, depuis le début, en fait, moi, si vous voulez, c'était parler de la santé, c'était ou d'un hôpital, c'était une métaphore. Mm-hmm. Mais le début d'autre chose, en fait, pour moi, le film, il a une double lecture. Il y a une lecture première qui est premier degré, qui parle de cet enfant dans un hôpital, mais c'est quelque chose qu'on connaît, en fait, finalement. C'est pas, il y a qu'à aller sur YouTube, en tout cas, parce que c'est ce qui concerne le Maroc, pour voir tout ce qu'il y a dans les hôpitaux marocains. Mais pour moi, le film traite en premier lieu de l'immigration. Et moi, je suis un émigré de cette génération-là. Moi, je suis arrivé en Suisse, j'avais 23 ans. Et puis, j'essaie de traiter un peu ce que ça représente, ce pas de quitter les siens, de quitter son pays. Mais pas du point de vue de celui qui quitte, mais du point de vue plutôt de mettre la caméra de l'autre côté, c'est-à-dire d'un pays qui laisse partir ses enfants comme une famille laisserait partir leurs enfants. Donc, en fait, le choix auquel vont se retrouver confrontés les parents avec leur petit garçon pour le sauver, donc est-ce qu'on le laisse partir pour lui donner un meilleur avenir ou on le garde parce qu'on l'aime, en fait, d'une manière plus générale, est-ce qu'un pays devrait laisser partir ses enfants ou les encourager à partir? Ce qui malheureusement est le cas actuellement, on est encouragé quelque part à partir. Et donc voilà, c'était une sorte de cri dans ce sens-là pour essayer de dire que ce n'est pas... Vous savez maintenant, malheureusement, c'est encore d'actualité, on parle beaucoup d'immigration et de réfugiés, etc. Et puis on voit ça comme si c'était des gens qui essaient de profiter du système et on oublie le déchirement que ça représente de quitter les siens, de quitter son pays, et que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est un réel déchirement qui nous accompagne tous, enfin tous ceux qui l'ont vécu, jusqu'à la fin de leur vie.
Et puis, dans une interview que vous avez donnée ici en Suisse, il y a 2-3 jours à la RTS, vous avez dit que ce film est très largement en dessous de la réalité que vous venez d'évoquer.
Oui, c'est bien dommage, mais j'espère toujours, je suis optimiste de nature, donc j'espère que les choses vont changer. Mais pour donner juste un exemple, sortir un peu du drame, vous savez, il y a un moment donné dans le film, on voit les patients qui regardent un match de foot sur un écran d'ordinateur. Moi, j'ai reçu, après avoir tourné cette scène, une vidéo sur YouTube. Je pense qu'elle doit encore exister sur YouTube, où c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est les chirurgiens qui regardent le match de foot pendant l'opération.
On se regarde l'hôpital de Sion. Donc, ça a défini la chronique il y a quelques années.
Donc, en fait, ça montre qu'on est vraiment en dessous de la réalité, parce que j'aimerais pas être à la place de celui qui est opéré, sachant qu'il y a un match de...
Les médecins qui sont très regardent le Barça.
Voilà.
Et puis, vous avez évoqué avant le lieu où a été tourné. Est-ce que ça a été difficile de trouver un hôpital pour tourner votre film, les figurants, parce qu'il y a un nombre incroyable de figurants?
Alors, les figures, vous savez, au Maroc, en fait, c'est un pays vraiment où il y a énormément de films qui se tournent, pas seulement la production nationale, mais aussi beaucoup de films étrangers qui se tournent. Donc, au niveau de l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. Après, il faut payer pour la figuration. Donc, c'était pas ça le souci. À partir du moment où on avait le financement nécessaire, on savait que, moi, depuis le début, je savais que la figuration, pour moi, ça allait être un des personnages du film. J'ai même choisi le format, si vous voulez, en format scope, pour garder de la place pour la figuration, qui est un personnage du film. Mais le choix qui s'est posé depuis le début, c'est de trouver l'endroit où je vais tourner. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un hôpital qui soit aussi un personnage. Mm-hmm. Et je ne sais pas pourquoi, je suis assez fasciné par l'architecture des hôpitaux en général. Je trouve que ça a toujours quelque chose d'assez... Enfin, on a l'impression que ça engloutit les gens qui rentrent dedans.
C'est pour ça que vous l'avez choisi. Vous avez choisi un hôpital finalement.
Oui, oui. Et en fait, je voulais que ce soit un hôpital et qu'il soit vide. Mm-hmm. Parce que je ne pouvais pas tourner dans un hôpital où il y a des gens qui sont réellement traités. Je ne peux pas demander le silence à des vrais malades parce que je tourne une scène. Donc ça a commencé un long chemin de croix pour trouver un hôpital qui soit, enfin un endroit qu'on peut transformer en hôpital ou un vrai, mais qui soit vide. Je vous la fais courte, au bout de 8 mois, on a eu la chance de pouvoir trouver cet endroit qui se trouve à Al Jadida, qui était un hôpital justement désaffecté et fermé, et qu'on a eu la chance de pouvoir débloquer et puis l'avoir et le retravailler au niveau déco. Où ma décoratrice a fait, et là j'ai un trou de mémoire pour trouver son nom, c'est très dommage parce qu'elle a fait un super boulot et puis c'est quelqu'un de formidable et qui a fait vraiment un super travail pour lui redonner vie, sachant qu'il était fermé vraiment depuis des années et qu'il était dans un état absurde. Mais voilà, mais elle a réussi à créer vraiment le climat que je voulais dans cet hôpital et puis du coup on avait vraiment l'impression que c'était un hôpital qui était en fonctionnement.
Vous critiquez aussi le système de santé marocain. J'ai aussi lu qu'il a été pourtant soutenu par l'assistance publique. Comment il a été reçu déjà pour les assistances publiques? Comment ça se fait qu'ils ont soutenu un film qui les critique aussi directement?
Vous savez, au Maroc, depuis une vingtaine d'années maintenant, on peut vraiment parler de pratiquement tout au Maroc. Donc, et la majorité des films sont financés, enfin sont soutenus par l'équivalent de l'OFC, donc c'est le Centre cinématographique marocain. Et on a cette chance d'avoir cette ouverture-là et cette liberté de pouvoir traiter. Vous pouvez trouver des films qui critiquent même, qui parlent des années de plomb au Maroc, de politique, de choses comme ça, et qui sont soutenus par l'argent public. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de frein. Mm-hmm. Et donc moi, je n'avais pas à tricher. En fait, je leur ai donné le scénario tel qu'il était. Et puis, ils l'ont lu, on en a parlé dans une commission. Et ils ont même trouvé, enfin, les membres de la commission qui étaient là, ils ont trouvé que c'était intéressant de traiter ce problème-là, parce que tout le monde y est confronté, vous savez. Moi, pendant tout le tournage, j'avais beaucoup, vraiment à chaque fois que j'allais filmer une clope entre deux prises ou pour penser à ma mise en scène ou des choses comme ça, j'avais quelqu'un de la figuration qui venait me raconter ses déboires avec l'hôpital, genre la semaine d'avant ou il y a un mois en arrière. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens vivent au quotidien et puis je pense qu'ils étaient contents de se voir à l'écran et de voir ce problème traité à l'écran.
Vous avez présenté, alors vous êtes suisse-marocain, vous habitez en Suisse.
Oui.
Et le film a été présenté au Festival international du film de Marrakech. Qu'est-ce que ça vous a fait de le présenter à ce festival? Comment il a été reçu par le public?
Alors, il y avait deux choses avant d'y aller qui a créé un peu une sorte d'appréhension. C'est-à-dire, c'était déjà la première fois qu'on a... Parce qu'il y a un scénario écrit, puis après, il y a un film. Et il y a quand même toujours une distance entre les deux. On ne sait pas comment réellement le film va être vu. Et puis, il y a une musique à la fin du film. Donc dans le générique, qui est une chanson du groupe Nordistan. Et donc les paroles sont un poème d'un grand poète irakien, Ahmad Matar, qui est exilé à Londres, et qui sont extrêmement... C'est une très belle poésie, mais c'est très violent, c'est très direct, et c'est vraiment contre tous les gouvernements arabes, quelque part, où il leur dit à chaque fois « Erhalo », ce qui veut dire « dégager ». D'ailleurs, ils disent aussi en français « dégager » là-dedans. Et du coup, je me souviens, j'avais eu le chanteur du groupe au téléphone parce que le festival nous avait fait un joli cadeau d'organiser un concert du même groupe à la veille de la projection du film. Donc il allait donner ce concert live à Marrakech pendant le festival. Et on se disait ensemble au téléphone, écoute, ça va être chaud parce qu'entre le film et la chanson, je ne sais pas comment ça va être accueilli. Donc la blague entre nous, c'était qu'au cas où on nous annonce une soirée à l'ambassade saoudienne après le film, on aura compris. C'était juste après les histoires de l'ambassade saoudienne en Turquie. Mais à ma grande surprise, le film a été très bien accueilli. Et puis les gens ont beaucoup aimé le film. Il y a eu une deuxième projection après laquelle il y a eu un long débat avec le public et qui a duré presque 1h30. Et c'était très positif et très prometteur.
Une dernière question avant de nous quitter. Vous pensez qu'il va être aussi bien reçu ici à Lausanne, au Festival Cinéma d'Afrique? Il y a aussi un couple suisse voilà, qui est concerné dans l'histoire.
Oui, j'espère. J'attends impatiemment de voir. Pour l'instant, en Suisse, il a été projeté qu'une fois à Soleur, donc où j'ai pu voir que, voilà, l'accueil du public, etc. Mais là, c'est un peu plus particulier, donc je me réjouis de voir comment ça va être reçu.
Ce soir, la première à 19h, au cinématographe, avec votre présence, évidemment.
Tout à fait, oui. Et ma menteuse, aussi, Naïma Bachiri, qui sera présente.
Voilà. Et demain, à 15h, toujours au cinématographe, ici, à Lausanne.
Tout seul.
C'est pas grave, vous en sortirez très bien, j'en suis sûr. Merci beaucoup, M. Silvestri.
Merci à vous.
Très bonne suite et puis bonne présentation pour votre film ce soir.
Merci.
Et pour demain, ici à Lausanne. Et merci à toi, Claudia.
Merci à vous. Merci.
Une toute belle suite de festival à vous. On va se quitter avec... on va prendre congé de notre invité, Mohsin Besri, avec quelques notes de musique qui viennent du Maghreb. On les écoute, c'est les Frères Maigri. Le 14 juillet dernier, Hassan Maigri, l'aîné des membres du célèbre groupe Les Frères Maigri, est décédé à Rabat, les suites d'une longue maladie. Et c'est pour cela notamment qu'on le diffusait ce soir, toujours pour rendre hommage. Et ça faisait également un énorme plaisir à notre invité, puisque c'est un ami, l'un des frères Maigri, l'invité Mohsin Besri, que nous avions à l'instant sur Radio Django.